Vous écoutez On lit pour vous.
On s'aime, mais chacun chez soi. Un texte de Catherine Maisonneuve, paru le 17 novembre 2024 dans La Presse. La tendance n'est pas nouvelle, mais elle est de plus en plus populaire. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on haussait les sourcils lorsqu'un couple annonçait ne pas vivre ensemble, sommes-nous désormais envieux de ceux qui font le choix du « living apart together » (LAT), ces couples heureux, épanouis, qui ne cohabitent pas? Selon Statistique Canada, 29 % des couples de 20 à 34 ans vivaient séparément en 2021 pour des raisons liées au bien-être, au travail non rémunéré ou au temps passé en famille, comparativement à 18 % en 2011, soit un bond de plus de 10 points de pourcentage en 10 ans. Un récent article du New York Times nous a également appris que le pourcentage de couples mariés ne fait que diminuer depuis 2019, tandis que le pourcentage de couples vivant séparément augmente. Selon l'étude America's Families and Living Arrangements du Census Bureau, le pourcentage de couples mariés vivant séparément a augmenté de plus de 25 % entre 2000 et 2019. Les chaînes de valeurs et les normes sociales ont énormément progressé ces dernières années, explique Sophie Mathieu de l'Institut Vanier, qui a analysé ces données dans le cadre de l'étude « La famille compte », où elle était chef de projet. Il n'y a plus une seule façon linéaire de vivre en couple, et ce qu'on remarque, c'est que les gens aspirent toujours autant à la conjugalité, mais c'est la façon de faire qui a évolué. On assiste à l'éclatement des parcours familiaux et à l'émergence de nouveaux modèles. L'évolution du modèle professionnel, forcé par la pandémie, a aussi contribué à redéfinir le modèle familial, par exemple dans le cas où un conjoint aurait 3 jours en présentiel au bureau, tandis que l'autre peut se permettre d'être à la maison de campagne tous les jours. La transformation des paramètres a permis l'éclosion de nouvelles façons de travailler, de vivre et donc de cohabiter. L'auteur, conférencière et coach familial, Nancy Doyon, confie recevoir de plus en plus de personnes en couple qui, pour préserver l'harmonie familiale ou leur bien-être, décident d'acheter un duplex, une maison multigénérationnelle ou de déménager à proximité l'une de l'autre sans toutefois cohabiter. Nancy Doyon souligne que ces couples se disent « On va continuer d'être un couple et on va être une famille recomposée, oui, mais pas à temps plein. Ainsi, tu élimines beaucoup de conflits non nécessaires. » Ce choix implique évidemment des sacrifices financiers. On pourrait bien sûr se payer une plus grande maison si on habitait ensemble à temps plein. Mais après 14 ans, on est encore aussi amoureux l'un de l'autre et notre passion est toujours là. Et selon moi, ça n'a pas de prix, explique Anne Lovely-Étienne, journaliste et chroniqueuse. Elle et son conjoint, mariés depuis 2022, vivent toujours chacun dans leur chez-soi. Lorsqu'elle a rencontré son conjoint, il était séparé et avait son fils en garde partagée. On voulait prendre notre temps et, considérant qu'on était une famille recomposée et que mon conjoint avait un enfant d'une union précédente, je ne voulais pas venir chambouler leur dynamique familiale et la mienne, qui avait toujours été sans enfant. Pendant des années, on s'est dit qu'on allait déménager ensemble un jour, mais les années ont passé et on a réalisé qu'on était vraiment heureux. Lui, il a du temps de qualité avec son fils, et moi, j'ai mon temps pour moi. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus dans les plans, explique-t-elle. Même son de cloche pour Marilyn Quentin, 40 ans. Lorsqu'elle a rencontré son conjoint actuel, il y a maintenant 6 ans, ce dernier avait 2 adolescents en garde partagée et elle, son fils, désormais âgé de 10 ans, à temps plein. Ce n'était pas une option pour nous d'habiter ensemble lorsqu'on s'est rencontrés. On avait chacun nos routines avec nos enfants, nos habitudes, nos modes de vie. On voulait respecter l'espace et les limites de chacun. Selon elle, leur couple va toujours aussi bien, en grande partie, parce qu'ils n'habitent pas ensemble. On se voit presque tous les jours. On soupe ensemble, mais on a chacun nos espaces, dit-elle. Je veux du temps seul avec mon fils. J'en ai besoin. Et d'avoir mon chez-moi me permet de me concentrer sur mon couple et ma famille, mais jamais les deux en même temps. Pour nous, ça fonctionne parfaitement. Les couples qui font ce choix en sont souvent à leur deuxième union et ils ont des enfants en garde partagée. Ils ont fait des compromis dans le passé pour leur famille ou leur ex-conjoint et aspirent désormais à protéger leur espace. Ils valorisent énormément leur individualité dans leur nouveau couple. En 40 ans, le Québec est passé de la province canadienne la plus conservatrice à la plus progressiste. La garde partagée et l'union libre sont désormais la norme. Et pour comprendre cela, il faut considérer la montée de l'hédonisme, de l'individualisme, la notion d'épanouissement personnel aussi, qui n'était pas autant présente avant, explique Sophie Mathieu. Quelque chose a définitivement changé sur le plan collectif. C'était « On s'aime, mais chacun chez soi ». Un texte de Catherine Maisonneuve paru le 17 novembre 2024 dans La Presse.
La persécution concertée et systématique de l'Homo Haitianus. Un texte de Gary Olius paru le 12 octobre 2024 dans Alter Press. Ô mon pays, je t'aime comme un être de chair, et je sais ta souffrance et je vois ta misère, et me demande, la rage au cœur, quelle main a tracé sur le registre des nations une petite étoile à côté de ton nom. Anthony Phelps. Comme de la matière plastique dans l'estomac d'un requin, la France colonialiste a du mal à digérer le fait que sa plus grande figure historique, Napoléon Bonaparte, ait été battue à plate couture par des hommes et des femmes qu'elle a maintenus en esclavage pendant des siècles. Sous l'effet de cette indigestion, les élites françaises ont essayé de gommer ce haut fait en interdisant, en France, son insertion dans l'enseignement de l'histoire et en organisant un traitement minimaliste de ce thème dans ses meilleures encyclopédies pendant une longue période de temps. Et pour cause, le monde francophone a dû attendre jusqu'à la fin du 20e siècle pour voir le mot « vertière » dans les dictionnaires Larousse et Petit-Robert. Au fil du temps, ces élites ont dû apprendre, à leurs dépens et malgré leur orgueil démesuré, que l'histoire ne se laisse pas effacer, même en pratiquant à dessein un exercice d'amnésie collective ou en recourant à un dispositif de censure ultra sophistiqué. Cet échec sur le flanc intellectuel était perçu par l'establishment français comme une simple bataille perdue, mais qui le motivait à mener avec plus d'acharnement le combat pour minimiser l'être haïtien et le transformer au moins en un objet de risée pour le reste du monde. Entre-temps, d'autres fronts ont été ouverts, comme la réduction au strict minimum de l'espace réservé à Haïti au sein des organisations internationales, comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou la Banque interaméricaine de développement. Et il existe tout un travail de neutralisation pour mener Haïti à un état d'insignifiance diplomatique ou la confiner dans la pratique d'une simple diplomatie de bol bleu. Mais la bataille la plus redoutable est, sans conteste, celle menée par la France sous l'angle racial et qui devrait conduire, à terme, à la persécution à outrance ou même à l'extermination de l'Homo Haitianus. Les élites françaises organisent une transmission intergénérationnelle de ce projet sans grandeur et jurent par les grands dieux qu'un jour ou l'autre, elles mettront à genoux la nation haïtienne. Un peu comme pour nous faire murmurer un jour « À quoi bon ce passé de gloire si notre présent est fait uniquement de pauvreté, d'humiliation et de douleur ?» La stratégie, définie depuis des lustres, est de mener les attaques sur tous les fronts et de maintenir l'être haïtien, bec à l'eau, sous une tension permanente, à travers des campagnes soutenues de médisance aux fins d'aboutir à son affaiblissement progressif et de parvenir ainsi à son extinction. Pour cela, aucune formule et aucune option n'a été écartée. C'est cette détermination sans faille qui a conduit la France à intégrer dans sa diplomatie une composante axée sur la diffamation systématique, le colportage de bas étage et la désinformation à grande échelle, lesquelles visent à ameuter les puissances occidentales et le relais du tiers-monde contre Haïti, à travers une propagande raciste savamment orchestrée et parfois même avec une agressivité sans égale. La France s'active depuis plus d'un demi-siècle à donner une profondeur au racisme anti-nègre qui fait croire, par exemple, à un Dominicain, à un Trinidadien ou à un Jamaïcain que, bien qu'il soit noir, il aurait intérêt à fuir l'Haïtien comme la peste, s'il veut bénéficier de certains avantages venant de l'Amérique du Nord ou de l'Europe. Cette différenciation forcenée fait de l'Homo Haitianus un nègre absolu que les nègres relatifs auraient intérêt à s'en éloigner pour avoir droit à certains investissements occidentaux dans leur pays. Et en dernière instance, cette campagne anti-haïtienne souterraine menée dans les couloirs diplomatiques par la France est pour contrer toute éventuelle fraternisation avec Haïti et prendre le contre-pied de l'idée dessalinienne de faire de ce pays un point de ralliement et un lieu de solidarisation pour tous les Noirs du monde entier. Malheureusement, cette prédication calomnieuse a eu un écho favorable dans les milieux de l'extrême droite des États-Unis, du Canada, de la République dominicaine et d'autres pays d'Europe. À telle enseigne que, dès que les gens parlent d'Haïti dans ces pays-là, on ne distingue plus les lignes idéologiques des débatteurs. Démocrates, républicains, progressistes et réactionnaires s'entendent sans échange d'arguments et sans débattre. Comme par magie, la haine et les préjugés cultivés envers l'Homo Haitianus rendent bon copain des ennemis jurés. Comme de fait, leurs actes anti-haïtiens se confondent ou se ressemblent à peu de choses près. Même en étant extrêmement pointilleux et différentialiste, on aurait beaucoup de mal à établir, dans les faits, un distinguo entre les déportations massives d'Haïtiens par les autorités dominicaines, la chasse à coups de pied de chevaux à Del Rio, au Texas, autorisée par les démocrates américains, et les promesses de chasse aux Haïtiens que Trump utilise pour galvaniser ses supporters, ainsi que les déclarations récentes du député Clay Higgins qualifiant Haïti de pays le plus méchant de l'hémisphère occidental, sans être sanctionné par la majorité démocrate de cette Assemblée. Bref, il semble que beaucoup de progressistes occidentaux sont logés à l'enseigne du fascisme dès qu'il s'agisse de débattre ou d'agir par rapport à Haïti et à son peuple. Vous écoutez « La persécution concertée et systématique de l'Homo Haitianus », un texte de Gary Olius paru le 12 octobre 2024 dans Alter Press. Sans complexe idéologique, on doit accepter l'évidence que Abinader, Biden, Higgins et Trump sont tous de la même trempe et se comportent en racistes militants anti-haïtiens, comme c'était le cas avant eux, de Franklin Delano Roosevelt, USA, de Albert Lebrun, France, et de Leonidas Trujillo, République dominicaine. En réalité, il y a là un racisme à la fois historique et d'actualité. Et, Il faut aussi croire que cela ne s'est pas fait par hasard, car les faits abondent pour prouver que ce drôle d'alignement de planètes s'est opéré sous l'effet de la médisance diplomatique menée par les élites françaises pendant plus d'un siècle. Joe Biden et Luis Abinader ont décidé unilatéralement de ne pas renouveler les visas octroyés aux Haïtiens, Haïtiennes, et de fermer les yeux sur le trafic d'armes en faveur des gangs en Haïti. Est-ce une simple coïncidence? Comment expliquer le fait qu'il existe en République dominicaine un groupe de réflexion, Think Tank, fonctionnant comme un observatoire des questions haïtiennes et dans lequel on retrouve des Français, des Américains, des néo-nazis, en plus d'intellectuels dominicains d'extrême droite? Tout cela ne saurait être le fruit du hasard, si l'on considère le fait que le président dominicain s'est fait réélire en arborant un discours de haine contre les Haïtiens. Trump est en train de faire la même chose, tandis que Joe Biden, sénateur de son État, a juré par les grands dieux que même si la terre d'Haïti disparaissait au fond de la mer des Caraïbes, cela ne le rendrait ni chaud ni froid. Face à cette réalité patente, un Haïtien qui ne serait pas sur ses gardes serait tout simplement un inconscient. La haine que les Français, les Américains, les Dominicains et même certains Canadiens vouent à l'Homo Haitianus n'est qu'un secret de polichinelle. Tout récemment, l'Université de Michigan a mené une minutieuse enquête et a découvert que les Américains exportent en Haïti un riz empoisonné au cyanure, après que des politiciens américains des deux camps, républicains et démocrates, eurent détruit la production de riz dans la vallée de l'Artibonite. Dans la même logique, les Dominicains exportent en Haïti des produits impropres à la consommation humaine, boissons alcoolisées frelatées à l'éthanol, salami contenant de la matière fécale, produits agricoles génétiquement manipulés, etc., avec l'unique dessein d'augmenter le taux de prévalence de certaines maladies mortelles dans le pays et de tuer à petit feu les consommateurs non avertis. Les Canadiens, quant à eux, manifestent leur inimitié avec un peu de nuance et de civilité, en interdisant l'entrée sur leur territoire de tous les produits commerciaux pour lesquels Haïti détient un avantage comparatif, au motif que ceux-ci contiennent des ingrédients dangereux pour la santé. On se souvient encore de ces notes d'interdiction à l'encontre de rhum Barbancourt et de la bière Prestige, deux produits qui sont internationalement médaillés pour leur excellente qualité. Et puis, il y a aussi ces véhicules blindés commandés et payés par l'État haïtien, mais bloqués au Canada juste le temps que les gangs armés eurent été capables de disposer d'armes et de techniques leur permettant de les neutraliser et les détruire. Dans la même démarche haïtianophobe, Anthony Blinken a cru qu'il a été urgent de venir en Haïti pour signifier de visu, entre autres, sa ligne rouge dans la bataille contre l'insécurité en Haïti, suite à l'appel lancé tant par de hauts responsables onusiens et d'éminents haïtiens pour l'utilisation d'équipements appropriés pour mater les gangs armés en très peu de temps. Le bruit circulait qu'en plus des blindés spéciaux offerts en don par l'hypocrite Joe Biden, des efforts parallèles sont faits pour que la PNH et les FADH disposent d'hélicoptères en quantité suffisante pour avoir une supériorité écrasante sur les bandits et être en état de solutionner durablement le problème. Luis Abinader, en personne, a interpellé à plusieurs reprises les autorités américaines pour leur faire croire qu'ils sont en train de modifier le rapport de forces militaires sur l'île d'Hispaniola sous prétexte d'élimination des gangs armés et que la République dominicaine souhaite que les Américains utilisent leur grande influence pour empêcher que cela se produise. Des moyens diplomatiques et financiers importants ont été mobilisés par les autorités dominicaines et, justement, des lobbyistes français lui étaient venus à la rescousse. Ils ont réussi à toucher la corde sensible des Américains en créant un marché gagnant-gagnant par la médiation d'un journaliste français bien connu vivant en République dominicaine depuis un bon bout de temps. Dans ce cadre-là, les Américains se sont engagés à interdire à Haïti d'acquérir des moyens aériens modernes, comme les drones munis de caméras infrarouges et des hélicoptères de combat pour son armée. En contrepartie, les responsables dominicains ont accepté d'ouvrir la porte à l'exploitation chez eux de terres rares, nécessaires à la fabrication de certaines composantes électroniques, comme par exemple les microprocesseurs ou les circuits intégrés nécessaires à la construction de smartphones et au fonctionnement du système de guidage d'armes tactiques et stratégiques. Au cours de son passage éclair à Port-au-Prince, Blinken a habilement fait passer le message et, depuis lors, la question de l'utilisation d'hélicoptères ou de moyens aériens conséquents dans la lutte contre les bandits est devenue un sujet tabou. La primature et la présidence en 9 personnes savent désormais que les Américains se portent garants du maintien du déséquilibre militaire en faveur de la République voisine et que la grande insécurité devra être combattue avec les moyens disponibles. La question a pris une dimension telle que même l'option d'acquisition ou de location, à partir d'un pays tiers comme le Brésil, est mise sur haute surveillance. Les récents événements laissent croire que les deux grandes instances de l'État haïtien ne réagissent pas de la même façon face à ces exigences indécentes. Cependant, un jour ou l'autre, la nation saura et l'histoire établira qui, du CPT ou de la primature, a joué le jeu des Américains, des Français et des Dominicains au détriment des intérêts supérieurs du pays. Pour l'instant, les anti-haïtiens du monde occidental doivent savoir que la bataille n'est pas finie et elle ne le sera jamais. L'homo haïtianus est un être résilient qui n'a peur de rien et qui a l'habitude des combats de longue haleine. C'est un fait indéniable qu'il y a toute une génération de politiciens haïtiens qui s'interdisent de concevoir une Haïti libérée de l'influence pernicieuse et de la mainmise américaine. Mais il est tout aussi irréfutable qu'il existe une nouvelle génération montante qui est prête à livrer de nouvelles batailles pour changer la donne. Je vous jure que cette génération aura le dessus, que Dessalines le Grand, dans le silence et la solitude de sa tombe, donne sa bénédiction à ces paroles. « Qui vivra, verra. » C'était « La persécution concertée et systématique de l'homo haïtianus ». Un texte de Gary Olius, paru le 12 octobre 2024 dans Alter Press.
Pourquoi redémarrer votre sans-fil une fois par semaine? Un texte d'Alain McKenna, paru le 6 novembre 2024 dans La Presse. Désactiver le Bluetooth et le Wi-Fi, utiliser systématiquement le verrouillage biométrique et surtout, éteignez puis rallumez votre téléphone cellulaire au moins une fois par semaine. Voilà les recommandations de base pour protéger vos renseignements personnels selon la NSA, l'Agence de renseignement de la défense américaine. Redémarrer son téléphone peut désactiver du code qui aurait été installé sur l'appareil à l'insu de son propriétaire. Cette recommandation fait partie de ce que la NSA considère comme ses « meilleures pratiques » à adopter quand on possède un téléphone intelligent. Cela vaut pour un iPhone ou pour un téléphone Android. Les experts américains en cyberespionnage le disent, devant les cybermenaces, tous les mobiles sont égaux. Avoir confiance, mais pas trop. Certaines de ces recommandations sont plus faciles à appliquer quand on a entre les mains un téléphone intelligent récent, d'une marque connue. Les lecteurs d'empreintes ou la reconnaissance faciale sont des outils d'identification biométrique relativement nouveaux. Un bon NIP fera généralement l'affaire. La NSA suggère de ne se fier qu'à des accessoires de confiance, ce qui est facile quand il existe un programme de certification assorti d'un logo qui confirme que les accessoires que vous achetez sont conçus pour l'appareil. Salut Apple! La NSA rappelle l'importance de n'installer que des applications provenant de boutiques officielles ou reconnues. Le risque d'installer une application malicieuse provenant d'une source peu fiable est l'argument avancé par Apple pour se défendre contre l'exigence que lui a imposée l'Union européenne au courant de l'été d'ouvrir son iPhone à des boutiques d'applications qui ne sont pas son App Store. il n'est pas rare sur Android de se faire proposer à même le navigateur d'installer une application qui provient d'un site Web et non du Play Store ou de la boutique du fabricant. Plusieurs sites offrent gratuitement toutes les applications qu'on trouve sur le Play Store et parfois plus. À moins d'être sûr de son coût, on peut rapidement s'y perdre. Et bien sûr, des campagnes d'hameçonnage en profitent pour envoyer, en pièce jointe d'un courriel, d'un message texte ou autre, un fichier d'installation d'une application pour Android qui peut être trafiquée. Ces fichiers ont un nom qui se termine par .apk pour Android Application Package. Comme les fichiers zip ou .exe sur Windows, si vous ne savez pas d'où ça vient, la NSA recommande de ne pas y toucher. Le comportement à adopter selon la NSA est de se méfier de tout, sauf si on peut être sûr à 100% de la source du contenu qu'on souhaite consulter sur son mobile ou sur son PC. Allez-y, éteignez. La NSA va loin. Elle suggère notamment de ne parler d'aucun sujet délicat à proximité de votre téléphone et d'utiliser un étui qui brouille le micro et qui masque la caméra. L'Agence fédérale américaine suggère d'éviter toute conversation délicate sur l'appareil même, à l'oral ou à l'écrit, à moins d'utiliser une application qui chiffre vos échanges de bout en bout. Là-dessus, bonne nouvelle, les messageries d'Apple, de WhatsApp et depuis peu, même Messenger de Facebook, offrent la possibilité de chiffrer de bout en bout vos échanges. Ça n'élimine pas tous les risques. La NSA recommande la mise à jour systématique du logiciel de votre téléphone ainsi que de ses applications. Les sources inconnues posent un problème. Même légitimes, elles ne feront pas automatiquement cette mise à jour sur votre mobile. Le Bluetooth, le Wi-Fi et les protocoles sans fil comme le NFC, pour Near Field Communication, utilisés notamment pour le paiement sans contact, permettent à des applications sur votre téléphone d'extrapoler votre emplacement sans passer par le GPS. Si vous tenez absolument à ne pas être suivi, vous devriez désactiver les services de localisation, puis éteindre tout ça également. Les téléphones plus récents permettent de n'autoriser, ou pas, l'accès à ces services qu'aux applications auxquelles on fait confiance. Sans surprise, la NSA déconseille aussi de débrider, jailbreaker ou router, comme on dit à bel oeil, votre téléphone ou de laisser votre neveu le faire pour vous. Comme le résume l'agence, citation, plusieurs applications qui offrent plus de commodité ou de polyvalence vont sacrifier la sécurité, fin de citation, de votre mobile ou de ses données. La clé est donc de trouver le juste équilibre. C'était « Pourquoi redémarrer votre sans-fil une fois par semaine? » un texte d'Alain McKenna, paru le 6 novembre 2024 dans La Presse.